20h02 sur Radio G. Tout de suite, c'est l'occasion de retrouver votre émission sportive de la grille. Tout de suite, c'est Génération Sport. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Génération Sport en ce mardi 18 février 2025. Vous m'avez peut-être reconnu puisque ça fait un petit moment que je suis pas venu, mais je remplace notamment Faustin et Florian qui ne sont pas là aujourd'hui. On leur passe le coucou évidemment s'ils nous écoutent. Peut-être qu'ils profitent des vacances, peut-être qu'ils se remettent de quelques virus qui traînent encore un peu en ces temps hivernaux. Mais on a quand même une belle tablée autour de la table avec l'équipe donc qui est composé donc à ma droite de Cédric. Salut Cédric.
Salut tout le monde.
Ça va bien? T'as passé, j'imagine, un bon week-end. On en reparlera après.
Tu crois?
On tise un peu.
C'est rien passé ce week-end. Ça a été un dimanche tranquille. Il faisait beau.
Et de quoi bien gagner des finales notamment.
Ouais, ce qui paraît, il y avait une finale.
Un temps à gagner des matchs. À ma gauche, Amaury. Comment ça va, Amaury?
Eh ben, ça va super. Alors, ce week-end, j'ai pas pu regarder énormément de sport parce que c'était travail.
Mais important avant tout.
Mais bon, les résultats ont été là pour les clubs angevins et même pour les clubs que je supporte à côté.
Mathéo est également avec nous. Salut Mathéo, comment ça va?
Bonsoir Alex, bonsoir à tous. Ça va très bien, très content d'être ici en cette semaine assez festive hein, sur Angers. On le sent, c'est dans l'atmosphère. Non, très content. Et puis voilà, c'est une belle semaine aussi. C'est les vacances, donc il faut en profiter également.
On va évoquer évidemment donc cette finale de la Coupe de France de hockey sur glace remportée par les Ducs d'Angers. Oui, bon, on le mentionnait pas, mais voilà, c'était un petit peu dans l'air. Évidemment, nos Ducs qui ont remporté leur quatrième Coupe de France de leur histoire, la deuxième en 4 ans, et qui ont battu les Grenoblois 3-2. C'était donc à Bercy. Une très très belle victoire des Angevins qui ont pu donc prendre leur deuxième Coupe de France en 4 ans, la deuxième qu'on vit ici à Génération Sport, donc c'est toujours un plaisir. Avec ça évidemment la petite qualification pour la Continental Cup, hein, comme il y a 3 ans maintenant. Et pour l'occasion, nous recevons donc des habitués maintenant de l'émission, le PUC Angevin, le COP de supporters des Ducs d'Angers, avec Philippe qui est là. Bonjour Philippe.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Et accompagné de, excuse-moi, j'ai oublié ton prénom, je suis vraiment
Alexis.
Désolé. Alexis qui est là également.
Et qui a encore un peu de voix.
Et qui a encore un peu de voix, oui.
Allez, reste à Paris.
Ils ont beaucoup crié, évidemment, dimanche pour cette très belle finale des Ducs d'Angers. On va donc revenir sur cette finale en long, en large et en travers. On reviendra aussi sur l'actualité du PUC. Mais avant ça, les gars, vous nous avez préparé donc un petit JT local sur toutes les informations à retenir du week-end.
Oui, c'est ça Alex, on va commencer par le football, hein, comme à l'accoutumée, avec la Coupe de l'Anjou qui se jouait cette semaine. Brissac et Saumur se sont affrontés. La victoire de Saumur, donc 2-2, puis 4-2 donc au tir au but. Saint-Pierre de Montrevaux a battu la Vaillante et l'Intrépide s'est incliné à domicile face à Saint-André-Saint-Macaire. Dinan-Léon a perdu face à Saumur à domicile en National 2. En National 3, Vertoux a perdu à domicile face à la Baie du Sco. Du côté des U19 nationaux, Saint-Renan s'est imposé face à Beaucouzé sur le score de 3-1. Du côté des U17 nationaux, Brest a battu le SCO 4-0 et Niort et Cholet n'ont pas su se départager 0-0. En R2, Spey a été battu à domicile par Muré-Régnier et Montillé a battu Segré sur le score de 3-0 dans ce duel donc du haut de classement. Autre rencontre chez les féminines de la Croix-Blanche, c'était à Brest après s'être imposé 4-0 à l'aller à domicile. Eh bien cette fois-ci score nul mais pas vierge de partout. Et puis en Ligue 1, Reims a été battu par Angers à domicile. Est-ce que autour de la table on aimerait réagir sur cette victoire angevine face à Reims, importantissime?
Très belle victoire, oui. Des Angevins qui ont pu, maximiser leurs occasions, puisque Le but vient de Farid El Mehali sur coup franc, le deuxième.
Le deuxième, hein,
après Marseille au Vélodrome. Non, une très belle victoire qui fait du bien, avec deux équipes surtout qui ont des formes totalement différentes. Et c'était assez marquant surtout de voir par rapport au match aller, où moi j'avais été au stade à Copa, et à l'époque le SCO a vraiment, on va dire, était dominé de bout en bout et a complètement perdu le match. Et depuis ce match-là, justement, il y a une espèce de déclic et l'équipe a aujourd'hui presque son maintien en poche, contrairement à Reims qui galère beaucoup. Donc c'est une victoire qui fait, je pense, beaucoup, beaucoup de bien pour les Angevins dans la course au maintien, justement, face à un concurrent direct.
Et malgré le retour aussi de Keito Nakamura, c'était aussi le questionnement, savoir si Reims allait se retrouver donc avec son meilleur buteur et aller faire le job. C'était tout le risque de cette rencontre du côté d'Angers. Mais ça a été intéressant, ouais, comme tu l'as dit, le SCO a bien su gérer ses occasions. Ça a été un match aussi où moi j'ai trouvé le milieu de terrain assez serein par rapport à ce qui était annoncé. On avait pas mal de remaniements, même au niveau de la défense.
Abdelhi n'était pas là.
C'est ça exactement. Et Bumla aussi n'était pas là. Donc donc c'était ça aussi le questionnement. Au final, je pense que tout a été plus ou moins correct dans cette rencontre. Et puis le SCO revient à
un peu de réussite parce qu'il y a le penalty manqué pour Reims.
C'est surtout ça. C'est du destin plutôt.
C'est
le destin
ça.
De se maintenir. Non, c'est très
cool. Ça. Sur le niveau de l'attaque, il y a quelques petite chose à redire, notamment sur la finition de Le Paul qui rate quand même 2-3 belles occasions, et puis le dernier rush à la fin de Sheriff qui rate sa frappe dans le but vide puisque le gardien Raymond a été monté, mais non, en tout cas 1-0, les 3 points sont là et je pense que ça fait énormément de bien au groupe Angevin.
Surtout grosse mérité. Préparation pour le prochain match en Coupe de France.
Et oui.
Mine de rien, c'est une petite répétition. C'est le 25, il me semble.
25 ou 26, dans une semaine, du coup, le quart de finale face à Strasbourg. Peut-être deux Coupes de France, hein, pour ranger cette saison dans deux sports différents. On aura le temps de voir ça.
Oui, et puis Esteban Le Paul qui s'est blessé aussi durant cette rencontre aux adducteurs, donc qui sera absent sans doute 2 ou 3 matchs.
Voilà.
Peut-être l'occasion pour Nyan de replanter.
Peut-être.
S'il te plaît, Ibrahim, si tu nous entends.
S'il te plaît, on a besoin de ça.
Voilà, exactement, pour la Coupe de France, on verra ça, mais c'est vrai que ça pose les bases peut-être d'une potentielle qualification face à Reims, qui a les armes pour bien revenir sur cette fin de saison, qui est un club beaucoup plus riche aussi, que ce soit en termes d'individualité, mais aussi en termes d'argent pur et dur, donc c'est intéressant de voir cette équipe d'Angers gagner en rugby fédéral 3. Vendôme, à domicile, s'est incliné face à Angers, 22-24. En tennis de table, les Loups d'Angers ont perdu à domicile face à Rouen, donc 3-1. Au volet, en N2, Angers a perdu, que ce soit en féminine ou en masculine. Les féminines qui n'avaient plus perdu à domicile depuis un bon bout de temps, qui prennent 3-1 par Levain. Et puis Angers qui a pris 3-0 par Chartres. Et puis enfin, pour finir, on est là pour ça. Le hockey sur glace avec Angers qui s'est imposé d'abord le 14 février en Ligue Magnus 7-5 face à Anglais. Et puis victoire en Coupe de France derrière face à Grenoble sur le score de 3-2. On va pouvoir y revenir. Mais juste avant, on passe avec toi au basket et au handball, Amaury.
Exactement, et on va commencer par le handball et la défaite encore une fois du SCO, cette fois face à Frontignan. Mais c'est un match, j'ai envie de dire, plus abouti que d'autres pour le SCO, parce que Frontignan est leader et le SCO redémarrait après un bon mois de 100 matchs face aux deux premiers du championnat. Reprise compliquée, deux matchs qui ont été plutôt aboutis dans l'ensemble, mais deux défaites, et il manque cruellement de points pour le SCO. Ils sont à 6 points derrière le premier non relégable. Donc des matchs plus aboutis, mais toujours pas de points. Ça va commencer à être très compliqué, Alex.
Et Massy, qui est un concurrent en maintien, qui va être le prochain adversaire des Angevins. Donc c'est sûrement encore une fois un match charnière pour le SCO en balle. Après, voilà, évidemment, à voir s'ils sont capables de remporter ce match.
En tout cas, il y a du mieux dans le jeu maintenant.
Ouais,
on peut espérer une deuxième partie de saison meilleure que la première. Il y aura
peut-être
pas
la première victoire surtout, parce que
il n'y aura pas de mal.
Toujours pas de victoire, un seul point. C'est assez triste, effectivement.
Maintenant, on va passer en basket et je préfère quand c'est Faustin qui fait la chronique parce que ça gagne un peu plus.
Ah.
Là, je vais le présenter, un peu moins de victoires, même si Cholet avait commencé sa semaine contre Nanterre en gagnant 97-84. Mais derrière, c'était la Leaders Cup en basket et Cholet était surpris par Le Mans dès les quarts de finale avec une petite défaite de 2 points et donc une élimination dès les quarts de finale pour ce petit tournoi de mi-saison. Pour l'UFAB, défaite de 1 point contre Chartres cette semaine. pourtant lanterne rouge, hein, Chartres. Une défaite qui fait du mal et qui oblige presque les Angevines à s'imposer ce week-end contre Basketland pour toujours pouvoir espérer avoir l'avantage du terrain en play-off. Et enfin, le AB s'est incliné aussi, 77-65, il reste 12e. Et donc voilà. Pour Faustin, reviens vite, nous présenter le basket et des victoires pour les clubs.
Et le AB apparemment qui bascule dans la deuxième partie de tableau, c'est-à-dire qu'ils ne joueront pas la montée en Pro B cette saison et qu'ils vont simplement se battre pour le maintien.
C'est pas tout ce qui était prévu pour quand on a reçu l'autre fois Mathéo Valton qui nous parlait des objectifs. Maintenant, il va falloir un nouvel objectif pour cette fin de saison avec le maintien. Du coup.
Très bien. On est bon pour le JT local. Très bien, on va pouvoir passer à l'interview. Cédric, je vais simplement te laisser la main. Toi qui es si bien habillé, avec un très beau maillot des Ducs d'Angers.
Maillot d'échauffement la saison dernière.
Magnifique. En plus, il te va à ravir. Hein. Il est parfaitement à ta taille.
Oui. Hein. si, comme moi, vous mettez des t-shirts en double XL, faut pas acheter un maillot de hockey double XL.
Oui, c'est ça. Ou alors il faut l'équipement avec, mais bon. Ça,
peut-être, c'est un peu dur de.
Après, en radio, c'est compliqué.
À la radio ou même dans la rue, ou même dans la patinoire, dans les sièges, je pense qu'il y aurait d'autres personnes qui n'auraient pas de place. Mais... Non, mais en tout cas, voilà. Que dire, un dimanche forcément qui était beau déjà par le temps. Mais on avant de revenir à la finale, j'ai envie de dire qu'on va déjà revenir sur ce que c'est le PUC Angevin, présenter un petit peu l'idée générale.
Le PUC Angevin, donc, c'est un jeune club de supporters qui s'est créé il y a moins de 4 ans, c'était fin 2021. La chance qu'on a eue tout de suite en arrivant dans la patinoire de l'Ice Park, c'est que les Ducs se sont qualifiés pour une finale, qu'ils sont allés jouer non pas à Bercy, mais à l'Arena Ice de Cergy, et qu'ils ont gagné contre Gap avec un but en prolongation de Robin Gabory. Donc pour nous, c'était un très bon lancement.
Ouais, c'était déjà une grosse fête à l'époque. Et puis, petit à petit, le COP a grandi.
Alors, le COP a grandi. Donc, au début, quand on s'est créé la première saison, on était environ 25 adhérents. Puis, on a doublé. On est passé à 70 l'année dernière. Et cette année, on a clôturé les adhésions à 90 parce que il y avait beaucoup de demandes qui arrivaient pendant la demi-finale contre Rouen. Parce qu'il y avait un intérêt derrière, c'est d'avoir une place pour la finale. Donc effectivement, on grandit, ça fait du bien. Ça va nécessiter effectivement aussi de structurer le club de supporters, parce que au début, quand on était 20, 25, 40, voire 60, un bureau ou un conseil d'administration de 6 à 9 personnes, ça pouvait suffire pour gérer toutes les activités. Là, ça va devenir, parce que là on pense qu'on va dépasser les 100 adhérents l'année prochaine, et donc il va falloir structurer et organiser davantage le club de supporters.
Et puis du coup, c'est repassé forcément par le placement en tribune. Ça a évolué au fur et à mesure des saisons. Là, maintenant, c'est à peu près acquis le nouveau coin. C'est un plus, du coup, cette nouvelle place en termes d'exposition.
Ouais, alors nous... on reste avec notre petite tribune qui est la tribune A. Donc on remplit de plus en plus, et ça c'est toujours beau à voir. Notre tribune, elle nous porte chance pour le moment, donc on a envie d'y rester, mais maintenant à voir au fil du temps si on bouge. Mais aujourd'hui on est bien en A, donc on y reste.
Ouais, puis c'est bien, ça permet de avec l'autre COP qui est à l'opposé dans l'autre virage côté CG, je crois, dans ce coin-là.
Oui, je pense, je suis pas certain, mais enfin...
Ouais.
En tout cas, c'est dans le prolongement, juste à côté, dans le virage, généralement, quand il y a des gros matchs et qu'il y a des supporters qui se déplacent, enfin, ça fait les quatre coins, on va dire, plus le troisième coin qui est un peu plus neutre, généralement, qui est plus proche maintenant au coin VIP, je crois, avec l'évolution de la patinoire aussi. Il y a une évolution sur les années, un peu plus de coins VIP. Ça, peut-être que c'est un petit peu décevant, j'ai trouvé, mais en tout cas, ça a ramené du monde aussi.
Ah bah,
le bilan cette année, il va être impressionnant. Je pense pas qu'il y ait eu un match où ça s'est pas joué à guichet fermé, ou alors vraiment sur peut-être des petites affiches en période où les gens étaient peut-être encore en début de saison, en vacances, ou des choses comme ça, mais
c'est vrai que le début de saison a été comme d'habitude un petit peu compliqué. On a eu des matchs amicaux en début de saison qui étaient pas forcément pleins. Ça on s'y attendait, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, de toute façon, c'est le public vient avec le score. Donc quand les Ducs d'Angers continuent à gagner, puis surtout qu'on a bien commencé la saison parce qu'on a on a enchaîné les victoires, que ce soit à domicile comme à l'extérieur. Donc les gens sont venus, et puis après oui, c'est comme une machine, quand elle est en route, elle se remplit. Donc c'est même compliqué d'avoir des places. Là, il nous reste plus qu'un match en saison régulière. Je crois bien qu'il est déjà à guichet fermé parce que là, nous aurons le droit à voir, je pense, une belle coupe qu'on a remportée dimanche. Donc non, le bilan, c'est que l'Ice Park est toujours aussi plein d'année en année, et puis là, on espère l'année prochaine que même au match amicaux, on soit plein.
Il va falloir pousser le plafond au bout d'un moment. Il n'y a pas le choix.
Donc nous, on y tient, cette fameuse tribune A. C'était pas la première qu'on avait au départ dans notre arrivée. Donc là, on s'était installé tribune A, parce que c'est celle que les Ducs nous ont donnée. Donc on a tous nos équipements, nos bâches, nos drapeaux, les tambours. Alexis est là pour en parler. Et puis la sono qu'on a, parce qu'effectivement, on n'arrête pas de chanter de la première à la 60e minute, voire prolongation si c'est nécessaire. Mais on l'a vu également à Bercy. Hein.
Ah bah ça s'est même entendu, j'ai envie de dire, hein, en termes de captation du match, une très belle vidéo, rien dire, mais niveau sonore, ça donnait l'impression qu'il y avait que des Angevins dans la patinoire.
Quoi. Oh bah je pense qu'en plus d'avoir gagné sur la glace, je pense que oui, on a largement gagné en tribune. Alors bien sûr, Grenoble, c'est un petit peu plus de temps pour venir, et puis ça fait plus loin, mais aujourd'hui, oui, on a gagné s'il y avait un match en tribune, on l'a facilement remporté avec nos 1500 voire plus Angevins qui étaient présents, oui, à Bercy dimanche.
Avec tous ceux qui ont acheté des places, qui étaient aux alentours, qui venaient juste pour voir du hockey simplement, qui avaient pas forcément de préférence, je pense qu'ils sont pris au jeu aussi. Enfin, en tout cas, ça se voyait quand il y avait des gros plans sur les tribunes, les gens avaient pas l'air de venir pour juste regarder, enfin
Non,
puis ça réagissait. Enfin, il y avait de l'émotion, il y avait toutes sortes de.
Non, puis c'est vrai que c'est la fête du hockey français, donc il y avait de nombreux supporters de différents clubs. Il y avait Sergi Pontoise, des supporters des Comètes de Meudon, en citant quelques-uns, mais il y avait aussi également le petit tournoi qui se fait toujours avant Bercy, des petites crosses avec les U9 de différents clubs de hockey sur glace en France. Donc ça rapporte du monde, ça ramène du monde de partout en France. Et puis c'est vrai que nous, on a eu la chance, Angers, cette année, de faire partie de cette grande fête. Et on espère y retourner le plus vite possible.
Du coup, en fait, la journée n'a pas commencé en fait le dimanche, puisqu'il y a eu le départ des joueurs le samedi. Donc c'était un départ, je crois, vers 10h30 à peu près de la patinoire, comme souvent. J'ai eu l'impression que cette année, il y a eu encore beaucoup plus de monde qui sont venus pour ce départ.
Alors c'est vrai que nous, notre semaine, elle a commencé beaucoup plus tôt parce qu'on a eu notre soirée annuelle le lundi, donc qui a lancé un petit peu les hostilités de la semaine, parce qu'on a profité du départ des joueurs en direction de Briançon mardi dernier pour malheureusement la défaite, mais voilà, donc tout est parti de là. Et puis après, le match des joueurs le vendredi, où on a déjà senti un petit peu dans les tribunes que il y avait un autre match derrière, hein, donc les gens étaient déjà dans la tête à aller à Bercy. Et puis bien sûr, ouais, le samedi matin où on était une cinquantaine,
tout à fait,
que ce soit Angevin, Raptor, bénévole, tout le monde était au rendez-vous. Donc nous, on a fait le choix de sortir nos drapeaux, donc ça s'est vu d'ailleurs sur les réseaux sociaux, que ce soit du club ou les nôtres, où on a été présent, fumigène, tambour, et il y avait de l'engouement. On avait envie de toute façon d'aller la gagner, et puis on sait que le septième homme compte beaucoup dans ce sport, donc fallait être là dès le samedi, et puis être encore plus là le dimanche.
Oui, certains joueurs ont dit d'ailleurs effectivement que le septième homme était bien les supporters des Raptors comme du Puck Angevin.
Oui, oui, de toute façon, on l'a vu de toute façon sur les images, les deux copes étaient côte à côte, voilà.
C'est la seule fois d'ailleurs dans l'année qu'on est tous ensemble, mais c'est là où on voit que Angers peut faire des grandes choses en question de supporters. Là, c'est cette finale, je pense qu'elle a mis en lumière que les Angevins pouvaient supporter leur club et rien lâcher. Et je pense que ouais, on a, de toute façon, tout le monde nous le dit, on a envoyé l'image de supporters passionnés et qui savent supporter leur équipe à fond. Et on a prouvé qu'on savait le faire dans les grands rendez-vous. Donc de toute façon, les grands rendez-vous arrivent vite maintenant quand on voit le calendrier des playoffs qui arrive à grands pas.
C'est ça, c'est...
Donc on va déjà voir vendredi si les Angevins ont compris qu'il fallait supporter les gars à fond pour voir des victoires et soulever potentiellement des futurs trophées dans les années à venir.
Oui, parce qu'il faut le rappeler, vendredi, ce sera le dernier match à domicile. Je sais plus, je crois que c'est même le dernier match régulier de la Magnus. Bon, pour ce match-là, je pense qu'il va peut-être avoir un petit turnover, parce qu'il doit avoir...
Bon, je pense pas. Après, de toute façon, ça reste un choix du coach.
Ouais, ouais,
toujours.
Ouais. Mais...
De plus que ce week-end, les jeunes U20 ont joué contre Grenoble.
Contre Grenoble, oui, qui gagne 1-0.
Par contre, il y a eu de la casse, donc on va voir le fond de banc angevin comment il s'en sort là pour le début des playoffs. Mais du moins, les gars, je pense qu'ils vont vouloir jouer les deux matchs qui nous viennent, Gap et puis finir Chamonix vendredi pour pouvoir au mieux se préparer pour les playoffs qui arrivent la semaine d'après.
C'est ça. Oui, parce que du coup, il y avait en même temps donc les U20 qui jouaient. Je crois qu'ils ont commencé genre une heure après le début de la finale et qui jouaient contre Grenoble. Le match était diffusé, on pouvait le voir. Et c'est vrai que j'étais un peu triste pour eux parce que pour les deux clubs, j'ai trouvé ça dommage qu'on leur programme un match comme ça un dimanche de finale où il y a les deux clubs qui s'affrontent. Je sais pas si c'est la Fédé qui organise le calendrier, mais c'est vrai que ça aurait été cool pour eux soit de pouvoir participer aussi à la fête en décalant le match ou trouver un système pour qu'ils puissent aussi eux faire l'avant-match ou après bon ça on sait que fallait arriver super tôt déjà pour pouvoir accéder au match à 15h donc mais j'ai trouvé ça triste un petit peu pour eux.
Alors moi je voulais ajouter une chose par rapport à l'ambiance. On était en 2022 à Cergy. Et les deux copes, hein, Raptors et Puck, étaient côte à côte. Mais voilà, on venait de se créer, donc les Raptors nous considéraient peut-être comme des adversaires plus que des concurrents ou des émulateurs. Et là, ça s'est trouvé différemment puisque entre les chanteurs de les capots, comme on dit au niveau des chants des deux clubs de supporters, il y a quelque chose qui s'est passé et on avait une alternance au niveau des chants ou de la reprise de chants lancée par un groupe de supporters, par un cop, voilà. Et donc ça m'a fait penser à une phrase et je l'ai notée avant de venir. Donc la différence entre le Puck et les Raptors. On n'a pas le même maillot, on n'a surtout pas la même histoire, parce que nous, ça fait 4 ans à peine qu'on est créé, eux, ça fait au moins 20 ans, 20, 25 ans peut-être d'ailleurs, mais on a la même passion, le hockey et les Ducs d'Angers. Et ça s'est trouvé, mais vraiment, ça a marché comme du tonnerre à Bercy ce dimanche dernier.
Ouais, puis au-delà de l'ambiance, c'est vrai que ça a été une belle finale, parce qu'il ne faut pas oublier que ça restait l'affiche que tout le monde attendait, Angers-Grenoble. Alors, Grenoble qui reste la meilleure équipe actuellement du championnat, malgré qu'elle est actuellement en train de perdre 3-0 sur la glace de Chamonix. Mais
ça, c'est bien.
Non, mais mis à part, voilà, c'était l'affiche que tout le monde voulait, l'affiche que tout le monde attendait. Et c'est une affiche que tout le monde attendra à l'avenir. Alors sans trop s'avancer, c'est vrai que on est parti de Bercy, puis tout le monde, même les Grenoblois, nous ont dit rendez-vous en play-off. La seule issue qu'on se retrouve en play-off, ça serait la finale. Donc on ne demande que ça, mais c'est vrai que voilà, on a eu, je pense, une très 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 belle finale avec de la qualité de jeu. Comme de toute façon, ça reste une finale, donc forcément, faut bien jouer, mais. Ouais, ça a été un très bon match, une très belle ambiance dans une patinoire magnifique qu'est la Core Arena. Donc, il y avait tous les ingrédients pour que ce soit une belle fête.
Même vu de l'extérieur, c'est vrai que on a vu les images, enfin l'arrivée des joueurs à l'arena, voilà, en grande pompe avec aide d'honneur. Enfin, c'est bien, ça envoie une image. Voilà, c'est pas que au foot qu'on fait ça. Il y a eu de l'engouement. Voilà, si on parle juste, ne serait-ce que des supporters d'Angevin qui se sont levés aussi super tôt pour aller à Paris en bus, qui sont revenus pareil en bus, ça a dû être la fête dans le bus aussi.
Oui. Enfin, c'est... Ouais, ça l'a été. Alors, quand on est parti, bien sûr que tout le monde dormait un petit peu, on va dire de 7h jusqu'à la première pause. Et puis, bah, bien sûr, après, tout le monde s'est un petit peu réveillé, les chansons sont vite arrivées, et puis la fête était lancée. Et puis après le retour, bah, bien sûr, la victoire a fait que on a fait une belle fête, et puis, on a bien fêté ça jusque tard dans la nuit, même très tôt le lendemain. Mais non, la fête était au rendez-vous. C'était super.
Ah bah, le patron, il avait dit hein, rendez-vous au matin. Hein, il l'a dit clairement en direct. Bon, bah, ça a été suivi. Hein. Après, voilà, c'est une tradition aussi, étant donné que le Maintenant Fils est sponsor du club et qu'il y a aussi une histoire avec le club. C'est naturellement que voilà, ça s'est fini cette belle journée là-bas. On va peut-être revenir un peu sur le match. Entame de match intéressante jusqu'à ce premier.
Sur un power play, ouais.
Power play, ouais. Ouais, ouais,
ouais. Ouais, la finale a vite été lancée par les Grenoblois avec l'ouverture du score par Boivin. Si je me trompe pas.
On est en infériorité numérique.
En infériorité numérique sur
limite. Ouais.
Non, il y a quand même faute sur Wilkins. Non, faut être honnête, il y a quand même faute sur Wilkins. Après, c'est vrai que...
C'est pas l'endroit où j'ai trouvé qu'il y a plus à discuter sur...
C'est vrai que juste avant, il y a peut-être quelque chose sur un Angevin qui perd d'ailleurs son casque. Ouais. Donc, on va... Voilà, la finale est faite, on l'a gagnée, mais... voilà. Donc
on savait que l'arbitrage, ça pouvait être tendu.
Ouais, mais ça fait partie du jeu.
Il y a un petit peu le passif avec cet arbitre qui... Un peu plus Grenoblois, mais en tout cas, voilà, les couleurs étaient annoncées dès le début. Avant même le match, on savait qui arbitrait, et c'était à nous de nous adapter aussi, de pas tomber dans le jeu.
Oui, alors après, comme diraient les gars, l'arbitre fait partie du jeu, donc qui on est en face, de toute façon, faut être le meilleur sur la glace, donc même si l'arbitre, est pas avec vous, faut quand même le gagner, faut quand même le jouer ce match-là, et puis faut pas se faire frustrer tôt. Donc oui, on a pris ce but-là au bout de 13 minutes sur un power play, mais c'est vrai que Peter Vallier a vite répondu pour les Angevins et faire lever cette belle tribune qu'on a formée. Et puis après, si on continue un petit peu sur le match dans la deuxième période, on va dire que les gars se sont relâchés. C'est vrai que la première période a été très très tendue, tout le monde essayait un petit peu de se chercher. Et puis la deuxième, ça a été le début un petit peu de cette finale. Il y a eu plus d'espace et dont a profité Samy Tavernier pour permettre au Duc d'Angers de reprendre l'avantage, enfin de prendre pardon l'avantage devant notre belle tribune hein, avec ce but où il vient se scratcher sur les balustrades et après, donc les Ducs qui ont essayé de tenir, mais malheureusement, Kyle Hardy, qui, comme à s'accoutumer face à Angers, qui vient marquer un but, qui prend lui-même son rebond. Et puis pour la troisième période, Théo Sarliev qui nous fait son show avec un magnifique but qui permet de délivrer notre tribune.
En fin de match, le quatrième qui peut tomber très facilement, hein. C'est avec le fait qu'ils aient sorti leur gardien pour tenter le tout pour tout. On a réussi à bien dégager, à bien gérer cette phase qui aurait pu être un peu plus compliquée. Ça a bien cadenassé, j'ai trouvé.
Ah, mais de toute façon, les Angevins, mais ça se voyait sur la glace, c'était, les Grenoblois pouvaient leur laisser 5, 10, 20 minutes de plus. Le but était fermé. La maison était fermée à clé. Et non, c'était pas possible de marquer pour eux. Et puis même quand on en a rediscuté, en arrivant à Angers avec l'entraîneur, ils pouvaient tout essayer, ça passerait pas. Parce que il y a eu ces sacrifices, il y a eu ce collectif. Parce que cette victoire, elle est pas individuelle, elle est collective. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence. Les capitaines en amont de la finale avaient dit que ça se jouerait sur des détails. Ça s'est joué sur ces détails, mais ça s'est joué également sur le collectif. C'était l'équipe qui jouerait le mieux ensemble. Et je pense que sur ça, on a fait largement la différence face à Grenoble. Et ouais, bah, les sacrifices. Je pense notamment à Philippe Allais qui, sur le power play en fin de première période, qui voit sa crosse se casser sur un tir et qui relance le palais en zone neutre à la main.
À la main, oui.
Donc non, mais on a eu vraiment les gars se sont battus et c'est ce qui fait que cette finale a été encore plus belle. C'est qu'on a vu l'Ada Langevin, on a vu cette motivation. Des gars d'aller chercher quelque chose parce qu'on n'était pas forcément les favoris si vous regardez tous les bookmakers nous voyaient absolument pas gagner et pourtant on a déjoué les pronostics et on a été gagné avec cœur cette Coupe de France.
Ah, je serais curieux de savoir ce qui s'est dit dans les vestiaires entre le deuxième et troisième tiers en termes de motivation pour...
Ça, on le saura jamais.
On le saura jamais. Oui, mais
ils sont assez grands pour.
Mais en tout cas, enfin, je pense à. Il y a dû avoir quelque chose, une petite étincelle là, qui les a bien reboostés.
Pour avoir entendu des interviews de Gabory, donc effectivement, par rapport au alors je parlais de l'arbitrage tout à l'heure, c'est vrai que les Ducs ne sont pas tombés dans le piège des agressions. Enfin, le mot est un peu large, parce que effectivement, le coach, donc Paredes, leur a fait fixer effectivement un cadre de jeu qu'ils ont totalement respecté et ça c'est pour ça. Donc Alexis disait que le deuxième tiers, troisième tiers, tout ça a déroulé parce qu'ils ont appliqué à la lettre et j'ai revu le match en replay.
Voilà,
on voit à un moment donné donc Gabo qui se fait un peu agresser par un joueur et qu'il regarde et puis qu'il s'en va parce que voilà la consigne c'était on ne répond pas parce qu'on connaît quelquefois Grenoble qui est effectivement un peu qui va provoquer effectivement des petites bagarres quoi. Donc derrière c'est des pénalités et derrière ben on est sanctionné quoi.
Dans le deuxième tiers il y a un second power play justement et il y a une faute en amont et derrière il y a je crois que c'est une crosse au visage ou comme ça de la part d'un Grenoblois.
Ouais,
ça finit long de la balustrade. Pour moi j'étais là. OK, il y a peut-être quelque chose en amont mais pourquoi il y en a qu'un qui prend quoi au final
Ouais, c'est sûr. Il y a une faute. Oui, de toute façon, il y a rien à dire sur la pénalité sur celle-ci, oui, du moins. pas forcément sur toutes, mais oui, sur celle-ci, il y a faute angevine. Mais bien sûr que ouais, la crosse est un petit peu haute du côté grenobloise. Elle mériterait potentiellement, elle méritait 2 minutes. Mais bon, voilà, le jeu est comme ça. La finale est faite.
Mathieu dernier, oui.
Mais oui, il y avait potentiellement quelque chose, mais il n'y a pas que là. Et c'est vrai que on a eu beaucoup de phases de jeu où on voyait des fautes, où on voyait des accrochages, de nombreux accrochages. Il y a même vers la fin que beaucoup ont oublié, mais la fin où Sami Tavernier part tout seul face à Pintaric et se prend un coup de crosse dans la hanche. Et on le voit même se baisser sur la hanche. Ouais. Potentiellement 2 minutes. Après, ça restait en fin de match, parce que d'ailleurs... Grenoble prend le temps mort juste avant, c'était sur la remise en jeu que Samy part, mais c'est vrai que bon, il y a eu des fautes pas sifflées, mais de toute façon je pense que ce match-là il a également prouvé qu'on pouvait gagner même si on n'avait pas tous les acteurs pour nous.
Ouais, tout à fait.
Je vais retourner Perlt. L'équipe, forcément vous avez dû suivre ça un petit peu de soit via les réseaux ou soit peut-être les rodifs, tout ça, qu'est-ce que vous en avez pensé un peu de ce match et de tout l'engouement qu'il y a eu autour?
Bah c'est très bien pour le territoire déjà et puis c'est très bien aussi quand on sait que le hockey c'est peut-être le deuxième sport voire celui qui fédère le plus à Angers, ça sera à définir aussi, mais c'est super, c'était une belle rencontre, c'est un bel événement. On en parlait aussi de l'horaire la semaine dernière, mais finalement un dimanche à 15h comme ça, surtout par le temps qui nous était proposé, c'est quand même une journée qui était belle de A à Z. Donc non, c'est vraiment quelque chose d'intéressant et la rencontre a été quand même assez incroyable. On avait quand même ce stress hein, tout au long de la rencontre de savoir est-ce que, et puis au final tout se passe... plus
ouais, mais
bien, entre guillemets.
Quand,
et
les Ducs ont inscrit leur troisième but par donc Sarliève, là, qui est parti en slalom et qui a fini donc par un tir que Pintaric n'a pas pu arrêter, il restait encore 16 minutes de temps à jouer, quoi. Et là,
ils ont
donc,
été longues.
Ça, c'est énorme. Mais même sur ce temps-là, bien sûr, le Grenoble a dominé, poussé pour essayer de marquer, mais quelquefois on a eu des occasions et Pintaric a fait aussi des grands arrêts à ce moment-là pour éviter que les Ducs prennent 4-2, etc. Donc, tu aurais pu tuer le match.
On a eu un beau duel de gardiens, faut quand même le souligner. Alors peut-être que sur le premier but angevin, Pintaric n'est peut-être pas irréprochable, mais sur l'ensemble du match, on a eu un beau duel de gardiens, on a eu un beau, enfin, dans tous les cas, attaque, défense, gardien, c'était une belle opposition. Et c'est ce qui nous a offert une belle finale qui a été très longue vers la fin. On voyait, on avait l'impression qu'on nous rajoutait des minutes, à la limite d'aller voir la table de marque.
Il n'y a pas une erreur là.
Non, c'est ça.
T'as pas appuyé sur le bouton quand il fallait.
Non, mais c'est ça. C'est vrai que on avait l'avantage, donc on voulait le garder. On savait qu'on pouvait l'emmener au bout. Et défensivement, il y a eu des tirs. Il y a eu de nombreux tirs même qui sont pas passés très 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 loin à chaque fois. Et non, on a tenu, mais ça a été très très long, ça a été très très long. Et puis bah la délivrance avec ce décompte qui est magnifique, que je pense beaucoup ont entendu. Hein.
Justement, elle est comment l'ambiance au moment du coup de sifflet final dans le COP de l'intérieur, comment vous vivez ça?
Bah, déjà, on était.
C'est l'apocalypse, c'est quoi?
Ah, c'est la fête, c'est tout. Mais c'était déjà la fête avant.
Oui, oui, mais là c'est. Bah oui. C'est l'explosion quoi.
Bah puis c'est surtout. Voilà, Grenoble était à 6-5 pour pouvoir là qui avait sorti son gardien et là il restait 13 secondes à peine et on voit le palais partir dans la zone et là tout le monde se regardait, tout le monde se disait mais on va le faire, on va battre Grenoble en finale de Coupe de France. Et là quand on voit que sur une relance les Grenoblois se ratent, que c'est récupéré et qu'il restait 2 secondes. Ah mais là c'était exceptionnel. On a tous exulté en même temps. On a fait vraiment on a tous fêté ça ensemble et ouais, cette explosion dans les tribunes après ce décompte, c'était incroyable. C'était voilà, il y en a beaucoup qu'on lâchait leurs larmes parce que il y avait les émotions, il y avait le stress parce qu'il y avait que un but d'avance. On n'a pas eu l'opportunité de mettre un but en cage vide pour se mettre à l'abri. Et il y a eu ce stress jusqu'au bout. Personnellement, moi, j'y ai lâché ma larme. Et je pense pas être le seul parce que c'est les émotions, le fait qu'on ait battu aussi Grenoble. Parce qu'on aurait pu battre d'autres équipes, mais le fait que ce soit Grenoble, ça ajoute quelque chose.
Quoi.
Grenoble pouvait rentrer encore plus dans l'histoire en faisant trois victoires d'affilée.
Mais puis on a eu aussi des antécédents dans la saison régulière parce que quand on a été les gagner chez eux à Pôle Sud et que on menait 4-3 si je me trompe pas et qu'on prend un but où il restait 3 secondes, on savait que Grenoble même dans les dernières secondes, ils étaient capables de planter un but. Donc le stress était là et de toute façon, ils pouvaient pas marquer. Ils pouvaient pas marquer, c'était pas possible. Il y avait la muraille, c'était pas possible.
Je voudrais revenir sur un moment, parce que la Coupe de France, donc effectivement, c'est une compétition qui dure longtemps, donc je sais plus, ça a dû démarrer vers le mois de novembre. Et pour nous, ça avait une saveur particulière, tout comme le club qui nous recevait. Donc, on a fait le premier tour éliminatoire avec Poitiers. On a gagné 24-0. Mais pour nous, ça avait une saveur particulière parce qu'on est très proche du club de supporters de cette équipe de Poitiers qui joue en D3, je crois bien, hein, c'est ça. Donc, les Dragons Picta Cop. Quand les Ducs sont allés jouer là-bas, que nous on s'est déplacés également, et c'était la fête pour eux, quoi. Ils jouaient contre une équipe qui était déjà première ou deuxième de Magnus, et qu'ils prennent 24, 30, 40, 50-0, c'était pas grave, c'était la fête qui se faisait pour eux parce que voilà, il y avait, et nous effectivement c'était particulier parce que c'était un club avec lequel on a des liens, et on est allé chez eux, ils sont venus chez nous, et là c'est le bonheur également de ce côté-là, quoi.
Et puis après, la Coupe de France a été lancée. On a été pour le tour suivant à Cergy et ça a été très compliqué
parce qu'on
était, on était dans une phase un petit peu moins bien au niveau des résultats de la saison régulière et d'aller gagner 1-0 à l'arraché de la meilleure des manières on va dire, parce que défensivement on a été très très solide. Sur cette Coupe de France, on a encaissé seulement 3 buts au total, donc ça reste des belles statistiques. Bon, on va pas compter du coup le nombre de buts qu'on a marqué, parce que le premier tour a fait que, mais ouais, on a fait, franchement, si on retrace tout le parcours, Rouen, c'est magnifique. Derrière. Rouen, ouais, c'est ça.
Enfin, il y a d'abord Nice.
Il y a d'abord Nice avec cette victoire 6-1 à l'Ice Park. Et puis, ouais, cette victoire où je pense que beaucoup n'auraient pas parié dessus de ce 6-0 qu'on a.
Surtout avec la manière.
Oui. Qu'on a infligé aux Dragons. Et puis voilà. Alors après, beaucoup ont douté aussi juste avant la finale parce que Grenoble avait infligé un 9-0 à Rouen, oui. Mais de toute façon, une finale, même si l'équipe en face, elle a mis 9-0 à une belle écurie comme Rouen.
Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne, yeah, comme
exactement.
On dit.
Bien,
merci beaucoup à Alexis et Philippe d'avoir été donc avec nous pour vivre cette finale et surtout de nous avoir apporté votre expertise dans l'émission de Génération Sport. Cédric, rapidement, non, t'avais un truc?
Non, bah, non, prochain match, vendredi. Bon, il y a peu de chances qu'on puisse y aller, mais on sait jamais, faut checker, il y a toujours des places qui se libèrent en dernière minute. Et puis, bah, sinon, maintenant, j'ai envie de dire, on regarde vers les playoffs. Maintenant, c'est, je pense, l'objectif, déjà de passer ce tour, le premier tour, ne pas se faire avoir comme l'année dernière. Normalement, on aura l'avantage vu notre placement,
mais
il se passe de belles petites choses pour les dernières places là pour les qualifications de playoff, ouais. Actuellement. Il y a encore de l'intérêt dans cette Magnus, malgré voilà que ça part bien devant. Les trois premières places sont gelées.
Même les quatre premières sont gelées. Après, toujours se méfier quand même. Les playoffs, ça reste les playoffs. La huitième équipe peut gagner le championnat et c'est ça la beauté de ce format-là. L'année dernière, on s'est fait piéger contre Cergy Pontoise en quart de finale. Donc on a beau être deuxième, on peut être sorti au premier tour. Donc non, faut pas prendre acquis le fait qu'on soit en quart de finale et qu'on puisse du coup avoir l'opportunité de se prendre la septième équipe qui sort de la saison régulière. Voilà, faut regarder l'adversaire droit dans les yeux, que ce soit en quart, en demi et surtout en finale, parce que nous, notre objectif depuis des années, c'est de ramener la Magnus en Anjou. Je pense que les gars ont aussi cet objectif là pour cette saison. Alors maintenant,
alors le président des Ducs a dit que l'objectif c'était de ramener la Magnus dans les 3 ans. Paredes arrive donc la saison dernière au mois de à l'été quoi, et donc là il engrange un premier trophée. On l'a rencontré lors des soirées que tu disais, puis d'autres rencontres qui se sont faites avec le staff des Ducs et les joueurs, et c'est vrai qu'on sent quelqu'un qui est quand même très posé, très très calme, très serein, et qui sait passer ce message là aussi à ses joueurs, peut-être de manière très différente des coachs qu'on avait les années précédentes.
Merci à vous donc Alexis et Philippe, membres du PUC Angevin, COP de supporters des Ducs d'Angers, après cette belle victoire en Coupe de France. Sans plus tarder, on va passer à la pause musicale et on se retrouvera juste après avec une petite chronique sur les prochains Jeux Olympiques organisés en France, ceux de 2030 en hiver, et puis le JT international de Matteo et Amaury. Tout de suite, la pause musicale, Kendrick Lamar, TV Off. All I ever wanted was a black grand national. Fuck being rational, giving what they asked for. It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. Few bitches that are really stepped, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough. I get on their ass. Yeah, somebody gotta do it. I made them niggas mad. Yeah, somebody gotta do it. I tell the G-Pad. Yeah, watch a nigga do it. We survived outside, all from the music, nigga. What? They like, what he on? It's the Alpha and Omega, bitch. Welcome home. This is not a song, this a revelation, how to get a nigga gone. I need you a man, baby, I don't understand, baby. Pay your bill and make you feel protected like I can, baby. Teach you something if you need correction, that's the plan, baby. Don't put your life in these weird niggas' hands, baby. It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. Few bitches that are really stepped, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough. I get on their ass. Yeah, somebody gotta do it. I made them niggas mad. Yeah, somebody gotta do it. I tell the G-Pad. Yeah, watch a nigga do it. We survived outside, all from the music, nigga. What? Hey,
turn this TV off. Ain't with my type activities, then don't you get involved. Hey, what? How many shit I seen? Send them all. Take a risk or take a trip. You know I'm tripping for my dog. Who you with? Couple sergeants and lieutenants for the get back. This revolution been televised. I fell through with the knickknacks. Hey, young nigga, get your chili up. Yeah, I meant that. Hey, blackout if they act out. Yeah, I did that. Hey, what's up, though? I hate a bitch that's hating on a bitch, and they both hoes. I hate a nigga hating on them niggas, and they both broke. If you ain't coming for no chili, what you come for? Nigga feel like he entitled, cause he knew me since a kid. Bitch, I cut my granny off and she don't see it how I see it. Got a big mouth, but he lack big ideas. Send him to the moon, that's just how I feel, yelling. It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. Few bitches that are really stuck, but it's not enough. Say you bigger than myself, but it's not enough.
Kendrick Lamar sur Radio G, celui qui a notamment assuré le show de la mi-temps du Super Bowl, c'était la semaine dernière, et peut-être que les gars vont en parler dans le JT International. Avant ça, je vais vous proposer une chronique donc sur les sports d'hiver. Vous le savez, en ce moment se déroulent les championnats du monde de biathlon à Lanzerheide, tandis que ceux de ski alpin à Saalbach se sont clos dimanche avec la désillusion malheureusement pour Clément Noël, lui qui représentait une grande chance de titre mondial pour l'équipe de France, mais qui a enfourché dans la dernière manche. Les Bleus, diminués notamment par les absences de Pinturault et Sarrazin, terminaient donc ces mondiaux sans médaille, pas franchement de bon augure avant les Jeux Olympiques qui auront lieu dans un an à Milan, Cortina d'Ampezzo. Il faudra donc peut-être attendre les Olympiades suivantes pour voir les Français battre des records de médailles. Et cela tombe bien puisque, on le sait depuis cet été, ces Jeux Olympiques d'hiver 2030 ont été attribués aux Alpes françaises par le CIO. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'organisation de ces deuxièmes Jeux en 6 ans sur notre territoire a connu des débuts quelque peu mouvementés. En effet, après l'obtention de l'organisation de ces Jeux de 2030 et le franc succès de 2024, il fallait quelqu'un pour incarner le projet, comme Tony Estanguet avait fait pour les Olympiades estivales. Un nom est alors revenu, celui de Martin Fourcade, l'ancien biathlète, membre du CIO et multiple champion olympique, cochait ainsi toutes les cases au point qu'Emmanuel Macron le désirait en Tony Estanguet des montagnes. Fourcade se déclarait donc officiellement candidat au poste de président du comité d'organisation en octobre dernier, mais les tractations pour sa mise en poste vont révéler quelques points de débat. Laurent Wauquiez, président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, voyait notamment d'un mauvais œil la candidature du champion du monde, le trouvant trop à gauche selon les informations de l'équipe. Au-delà de ses relations tendues avec certains membres de l'organisation, Fourcade représentait aussi un risque de conflit d'intérêts, lui qui voulait conserver ses marques partenaires Rossignol et Odelo. Enfin, le biathlète ne souhaitait pas que le siège du COJOP se situe à Lyon, et il préférait évidemment un siège en montagne. Toutes ces raisons poussaient donc le Pyrénéen à jeter l'éponge au début du mois, provoquant une certaine panique chez les décideurs. Il fallait désormais trouver un chef de projet idoine, et alors que les noms de Nathalie Péchala ou encore Vincent Jay ont circulé, c'est finalement l'ancien skieur de Bosse Edgar Groupiron qui raflait la mise le 13 février dernier. Le champion du monde de ski de Bosse est familier de l'olympisme puisqu'il fut médaillé d'or aux Jeux d'Albertville en 1992, mais surtout c'était lui qui était à la tête de la candidature Annecy 2018, une candidature avortée faute de moyens financiers à l'époque. Groupiron reprend donc en main le projet Alpes françaises 2030 après ses nombreuses turbulences. Ce mardi 18 février, le COJOP a ouvert ses portes à Lyon et a donc été inauguré aujourd'hui au Groupama Stadium. Il reste encore de nombreux chantiers à manœuvrer pour l'ancien skieur de Bosse, avec entre autres la définition des différents sites olympiques, avant de présenter surtout le projet devant le CIO en mars prochain. Affaire à suivre. Voilà pour les dernières infos concernant les Jeux Olympiques d'hiver de 2030. On va tout de suite enchaîner, les gars, avec votre JT international. Amaury, je te laisse commencer. Excuse-moi, pardon.
qui nous parlait des sports d'hiver, eh bien on va tout de suite commencer avec ça. Les mondiaux de biathlon qui ont débuté et l'équipe de France qui a parfaitement lancé sa compétition hein, dès la première course, hein, le relais mix avec Julia Simon, Éric Perrault, Emilien Jacquelin et Lou Jamono ont décroché le titre mondial. Juste après, c'est Justine Brezaz-Boucher qui a ensuite brillé sur le sprint féminin, s'imposant grâce à un dernier tour impressionnant. Chez les hommes, Johannes Beu a dominé le sprint, mais Quentin Fillon-Maillet a pris une belle troisième place. Sur la poursuite, c'est Éric Perrault qui a décroché la médaille de bronze, derrière toujours Johannes Beu vainqueur. Et chez les femmes, c'est Justine Brezaz-Boucher qui n'a pas su conserver son avantage, mais qui repart tout de même encore une fois avec le bronze, tandis que Lou Jamono a terminé cette fois-ci au pied du podium. Mais aujourd'hui, Lou Jamono a décroché une belle troisième place et c'est Julia Simon qui s'est imposée sur l'individuel. Et cela permet donc à l'équipe de France de dominer le classement des médailles avec encore quelques belles opportunités sur les relais, la Masters et l'individuel homme. Contrairement au biathlon, les mondiaux de ski alpin, t'en as parlé très rapidement, ont été bien plus compliqués, aucune médaille à se mettre sous la dent. La dernière chance de podium s'est envolée avec Clément Noël qui avait dominé la première manche du slalom avant d'enfourcher sur la seconde. Un bilan qui peut être inquiétant à un an des Jeux Olympiques, même si plusieurs cadres de l'équipe de France étaient absents sur blessure. On pense notamment à Alexis Pinturo ou Cyprien Sarrazin, qu'on espère voir de retour au meilleur niveau l'année prochaine. On va parler un petit peu de basket aussi et la grosse surprise lors de la Leaders Cup avec la victoire du Mans, auteur d'un parcours parfait en trois matchs. Tout a commencé avec une victoire serrée contre Cholet, j'en ai parlé très rapidement au début de l'émission, mais et derrière une demi-finale contre Saint-Quentin. Victoire pareille, serrée, mais une belle victoire. Et enfin, une finale gérée de main de maître contre Monaco, 104 à 96, qui offre MSB un trophée inespéré cette saison, un bel accomplissement pour cette équipe qu'on n'attendait pas à ce niveau de compétition. En parlant de basket, on va se diriger aussi du côté des États-Unis avec le All-Star Game qui avait lieu, avec une nouvelle formule qui a fait un petit peu débat, mais
qui fait débat
forcément, le All-Star Game depuis des années, mais on va dire que il y a eu pour une fois quelques personnes qui ont trouvé ça positif, alors que depuis quelques années c'était 100% négatif. Mais donc un concours de skill challenge, vous avez forcément vu l'image passer avec Victor Wembanyama et Chris Paul qui se sont amusés, qui ont essayé de contourner les règles en les respectant un petit peu.
Ils ont jeté
les ballons au lieu de tirer et ils ont forcément gagné du temps comme ça parce qu'il fallait marquer un panier, mais il y avait trois ballons, si on jetait les trois, bah on pouvait partir. Bon, ils ont été disqualifiés. On est d'accord, on n'est pas d'accord, peu importe. En tout cas, ils ont bien rigolé. Et derrière, c'est Stephen Curry qui a été élu MVP du All-Star Game.
À la finale, notamment.
Voilà, à la finale du All-Star Game. Et avec une victoire, donc, des anciens face un petit peu à la team monde. Voilà pour la NBA, je me perds un petit peu dans mes notes. Et donc on va parler maintenant de tennis et de Yannick Sinner qui a écopé d'une suspension de 3 mois pour dopage, une sanction qui fait débat. Officiellement, il n'est pas reconnu coupable de dopage intentionnel, mais la présence du produit interdit dans son organisme reste avérée. Pourquoi seulement 3 mois? La jurisprudence dans ce type d'affaires semble un petit peu floue et cette décision pose des questions sur l'égalité des sanctions en fonction de sa place au classement mondial notamment. Alors, sanction trop clémente ou logique au vu des circonstances? J'ai envie de vous poser la question, Cédric, Alex, qu'est-ce que vous en pensez?
Bah, chez les femmes, on a quand même beaucoup de cas où pour des produits qui étaient autorisés, on a changé en début d'année, par exemple les règles, elles prenaient cher. En termes d'interdiction de jouer, de sanctions. Là, si le produit était déjà dans la liste et qu'il est retrouvé, je vois pas pourquoi on serait plus clément parce que t'es à tel endroit ou t'es... Non, on doit partir sur un barème, tel produit à tel niveau, retrouvé dans le corps, bah c'est temps.
Ça ressemble surtout à un arrangement entre amis. Hein,
puisque, oui, oui,
voilà,
oui.
3 mois de suspension.
Sans grand chelem.
Sans aucun grand chelem. Donc
français.
On veut pas crier au complot, mais franchement,
l'Australie est passée.
Il y a rien d'exemplaire en tout cas dans cette sanction.
En fait, moi, le problème que je trouve, c'est toutes les personnes qui avant ont été reconnues coupables d'avoir utilisé un produit, même sans le vouloir, qui eux ont pris 2 ans de sanction. Derrière, moi, j'ai envie de me retourne contre les instances qui aujourd'hui prononcent que 3 mois. Car la jurisprudence.
L'ex numéro 1 mondial chez les femmes. Qui avait pris cher, ça lui a cassé sa carrière derrière.
Alep notamment, oui.
Voilà. Ah, il y a Simona Alep, mais il y a eu juste avant, je crois, c'était la...
Sharapova,
ouais.
Euh, messieurs, au niveau des actus, est-ce que le football, non?
Oui. Mathéo, peut-être, Mathéo avait un petit peu de foot aussi.
Il y avait un peu de foot quand même ce week-end, Mathéo.
Forcément, avec encore et toujours notre bonne vieille Ligue 1 et puis des résultats qui ont surtout arrangé le SCO, hein, puisque derrière, personne n'a franchement gagné avec en ouverture un Brest-Auxerre, 2-2, donc Auxerre n'a pris qu'un point. Et avec la victoire du SCO dimanche, le SCO repasse devant les Auxerrois. Samedi, Marseille a mis 5 buts au Vélodrome pour la première notamment de Bennacer, dans son nouveau stade à Saint-Étienne, 5-1, victoire 7-1 de Monaco contre Nantes. Ça aussi, on peut être plutôt content en tant qu'Angevin aussi. Toulouse a perdu à domicile face au Paris Saint-Germain 1-0. Montpellier a perdu également à domicile face à Lyon, 4-1. Le Havre également à domicile a perdu contre Nice, 3-1. Victoire de Strasbourg à Lens 2-0. Victoire du SCO donc face à Reims 1-0. Et puis pour clôturer cette journée, victoire de Lille à Rennes 2-0. Voilà pour la Ligue 1. Et puis aujourd'hui et demain, c'est surtout la fin de la Ligue des Champions. On va pouvoir pronostiquer tous ensemble autour de la table, alors que le premier résultat est tombé, le premier éliminé de ces 16e de finale, et c'est l'AC Milan qui est sorti par le Feyenoord, quand même assez étonnant.
Un partout,
avec une victoire du Feyenoord à l'aller à domicile sur le score d'un but à zéro. Donc belle première rencontre, assez étonnant au vu quand même de la forme de Feyenoord qui avait pris 6-1 par Lille juste avant, donc c'est assez étonnant. Milan qui continue un peu son chemin de croix d'une équipe incompréhensible
qui avait pourtant recruté l'attaquant de Rotterdam, oui, Jiménez, pendant le mercato d'hiver, qui a marqué sur ce match, mais ça n'a pas suffi évidemment pour les Milanais.
Exactement. Et puis on
et ce soir avoir... Oui, attends, pardon Philippe.
On peut parler aussi de Damil Bentaleb, qui était un ancien joueur du SCO.
Et oui, bien sûr, la très belle histoire du week-end, bien sûr.
Voilà, qui a repris son jeu, effectivement, avec Lille, en ayant un défibrillateur...
Qui était à deux doigts d'arrêter le football, il y a encore cet été,
c'est rare,
et qui est revenu pour son premier match, et qui a marqué au bout de 3 minutes, magnifique.
Ouais, magnifique premier but avec Lille, et puis son dernier but, c'était contre Rennes, il me semble, avec le SCO.
Magnifique.
Mais c'était pas à Lille.
L'histoire est belle.
C'est ça, exactement.
Et rapidement, parce que l'émission, on va bientôt toucher à la fin, quelles sont les grosses affiches ce soir et demain?
Alors, on va surtout parler des clubs français, forcément. Ce soir, la grosse affiche, c'est Benfica-Monaco. Monaco qui a perdu à Louis II, 1-0 sur un match...
On va pas parler de l'arbitrage.
On va pas essayer de décrypter les raisons de cette défaite, mais on en connaît la plupart. Donc ce soir, c'est principalement Monaco-Benfica. Hein. Les autres matchs sont plus ou moins joués. L'Atalanta a perdu à Bruges, mais l'Atalanta, c'est l'une des meilleures attaques, la deuxième meilleure attaque de la Ligue des Champions cette saison. Donc forcément, pas de souci pour eux. Bayern à domicile face au Celtic, ça devrait plutôt bien se passer. Demain, c'est Dortmund-Sporting. Dortmund qui a mis 3-0 au Sporting à l'aller à Lisbonne, donc ça devrait également plutôt bien se passer pour les Allemands. Paris-Brest, Paris qui a mis 3-0 à Brest à domicile, on
la
s'en rappelle. Edith. Donc logiquement, c'est ça, la messe est dite. La Juve se déplace à Eindhoven, là aussi un match plutôt intéressant, comme le Real Madrid City du soir. C'est deux grosses rencontres qu'il faut plus ou moins voir, avec victoire à l'aller de la Juve, mais sur la plus petite démarche, et puis un match qui se joue aux Pays-Bas, c'est toujours compliqué d'aller gagner là-bas.
Eh bien, merci Mathéo pour ce point football. On va tout de suite rendre l'antenne à l'émission qui nous suit juste après. On vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Génération Sport.
Le jour où on m'a...